Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Stroche-Bonnard. Pour la dernière émission de la saison, nous vous proposons un entretien exceptionnel avec l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon. Emmanuelle Mignon, bonjour.
Bonjour.
Et merci de rejoindre les Contrariantes aujourd'hui. Je vais laisser Peggy vous présenter.
Emmanuelle Mignon, on vous connaît surtout pour avoir été la directrice du cabinet du président de la République, Nicolas Sarkozy, entre mai 2007 et juillet 2008. Après quoi, vous avez été nommée conseiller auprès du président de la République. C'est un poste que vous avez occupé jusqu'au 5 décembre 2009, date à laquelle vous êtes retournée au Conseil d'État. Donc effectivement retourné parce que vous aviez été nommé au Conseil d'État en 1998, vous étiez à l'époque maître des requêtes. Vous avez été successivement rapporteur à la section du contentieux, responsable du centre de documentation et commissaire du gouvernement. En 2005, vous avez été distingué Young Leaders de la French American Foundation, une organisation qui se consacre à renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Et parmi vos compétences de leadership, on peut compter une expérience qui pourrait paraître cocasse, à savoir que vous avez été commissaire national guide au scout unitaire de France dans les années 90. Mais c'est pas si anecdotique que ça, parce que ça vous avait fait dire en janvier 2006 que votre vie scout, vous avez appris, là je vous cite, que le service du bien public fait partie des missions du chrétien. Il n'y a pas incompatibilité. Donc pour commencer cet entretien, qui va notamment porter sur votre vie au service du bien public, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur votre carrière ?
D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. J'aime beaucoup votre émission et donc je suis très contente de participer aujourd'hui. Je suis étonnée que vous ayez commencé par le scoutisme. C'est une référence à laquelle on me renvoie assez peu, en fait, aujourd'hui, parce que c'était il y a quand même assez longtemps maintenant. Moi, j'ai eu, à partir de l'âge de 12 ans à peu près, une véritable passion pour la politique, pour les idées politiques, pour l'action politique. Je pense que ça coïncide avec l'élection de François Mitterrand. À partir de là, j'ai voulu orienter ma vie active, ma vie professionnelle, vers le service du pays, vers l'action politique, vers le service de la France. Je ne savais pas du tout comment on faisait. Mes parents n'étaient pas du tout de ce milieu-là. Ils étaient très hostiles à ce projet. Donc, quand je leur ai dit que je voulais faire Sciences Po, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont obligé à faire une école de commerce. Et j'ai fait Sciences Po dans un deuxième temps, après une école de commerce. Sciences Po a été un véritable épanouissement intellectuel pour moi. C'est à ce moment-là que je suis devenue bonne élève. Jusqu'à présent, j'étais une élève assez passable. Je me suis passionnée pour les questions de géopolitique, les questions constitutionnelles, les questions de fiscalité, comment est-ce qu'on crée une fiscalité à la fois efficace et juste, pour les questions de santé publique, pour les questions de droit du travail, etc. Et à la sortie de Sciences Po, j'étais mieux formée, toujours confortée dans l'idée que ce qui me passionnait, c'était les questions de vie collective, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on organise la société pour essayer d'en tirer le meilleur et que chacun puisse vivre dans la paix, dans la liberté, dans l'épanouissement individuel. Mais je ne savais toujours pas comment on faisait pour faire de la politique. Alors j'ai passé l'ENA un peu par facilité, parce que j'ai vu tous mes camarades qui passaient l'ENA, et j'ai eu la chance d'être admise. Et en entrant à l'ENA, alors un petit peu plus tôt que ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que moi je suis entrée à l'ENA en 92, je suis sortie en 95, donc je suis entrée au Conseil d'État en 95, j'ai découvert un autre monde, en réalité, que je confondais avec le monde politique, mais qui est un monde différent, et qui est le monde de la haute fonction publique, qui est un monde qui a sa propre noblesse, dans lequel on a des gens très dévoués, très compétents, qui sont au service des responsables politiques, Et qui sont là pour éclairer les choix des responsables politiques grâce à leur savoir, à leurs compétences, à leur expérience, et pour mettre en œuvre les choix des responsables politiques sans être les décideurs de ces choix. Et lorsque ce métier est exercé dans une parfaite clarté démocratique, ce qui est, je crois, le cas en France, c'est un métier très exaltant, parce qu'en réalité, le haut fonctionnaire a un vrai rôle. Il doit dire la vérité aux responsables politiques, il doit leur expliquer lorsqu'ils se trompent, il doit leur expliquer qu'est-ce qui est difficile, il doit essayer de... dans une très grande loyauté, il doit essayer d'aider le responsable politique à identifier des voies de passage pour permettre aux responsables politiques, aux responsables publics de mettre en œuvre les politiques publiques qu'ils ont choisies. Et en même temps, il y a une très grande noblesse à faire ce métier dans l'ombre, de manière discrète, de manière loyale, au service des responsables publics selon les choix qu'ont exprimés les électeurs. Et c'est très important d'avoir, on a la chance, je pense, dans notre pays, d'avoir cette fonction publique compétente, discrète, loyale, honnête, et qui sait rester à sa place. Donc ça a été pour moi une véritable découverte. J'ai été très heureuse au Conseil d'État pendant 7 ans dans ce rôle. Alors c'est vrai qu'au Conseil d'État, quand on commence, on fait beaucoup de contentieux, donc on n'est pas en contact direct des responsables politiques, mais on joue son rôle dans les fonctions que j'ai exercées à ce moment-là. Et puis en 2002, les choses ont pris une tournure. Je ne dirais pas que j'avais oublié, mais enfin en tout cas que j'avais un peu laissé de côté dans les premières années de ma carrière, puisque une série de hasards, une série de coïncidences font que j'ai eu la possibilité de rejoindre le cabinet de Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et je l'ai donc rejoint en 2002 comme conseillère juridique. Alors pourquoi ? Une espèce de convergence de deux coïncidences. D'abord, moi, je pense que le virus de la politique m'était quand même un petit peu revenu. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez quand même envie d'être dans la décision publique et pas simplement dans le conseil ou dans la mise en œuvre de choix qui se font ailleurs. Et puis la deuxième raison, c'est de la pure coïncidence, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy pensait être Premier ministre de Jacques Chirac, il avait constitué son cabinet. En fait, les choses ne se passent pas comme ça. C'est Jean-Pierre Raffarin qui devient Premier ministre. Nicolas Sarkozy se retrouve ministre de l'Intérieur. Il doit trouver en urgence quelqu'un du Conseil d'État pour lui rédiger ses lois. Et il appelle le Conseil d'État en demandant qu'on lui envoie quelqu'un. Et c'est moi qu'on a envoyé. Je ne le connaissais absolument pas. Je ne l'avais jamais fréquenté. Je ne l'avais jamais rencontré. Et c'est comme ça que je débarque un peu par hasard au cabinet du ministre de l'Intérieur.
Et tout ça vous mène à vous engager dans sa campagne à la présidentielle en 2007. Alors comment cela s'est-il passé concrètement ?
Alors concrètement, la deuxième coïncidence ou la deuxième chance de cette arrivée en 2002 dans l'équipe de Nicolas Sarkozy, c'est que le premier dossier qui se présente au ministre de l'Intérieur, c'est la question de la poursuite du processus de création du Conseil français du culte musulman, du CFCM. C'est un processus qui avait été initié par Jean-Pierre Chevènement, donc c'était clairement quelque chose qui venait de la gauche. Dès que Jacques Chirac embraye sur son deuxième mandat et que Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur, on est immédiatement bombardé de notes et de demandes de rendez-vous pour nous demander d'arrêter le processus. Jacques Chirac souhaite arrêter le processus. Dalit Boubaker, qui est à l'époque le musulman le plus connu de France, veut arrêter le processus. Et donc tout est fait pour qu'en réalité on arrête le processus. Et Nicolas Sarkozy n'a aucune idée préconçue sur la question. En fait, il ne sait pas, mais ce dont il est sûr, c'est qu'il veut se faire son idée par lui-même. Et donc, il demande à son directeur de cabinet, qui était déjà Claude Guéant, il faut que j'aie un conseiller chargé des cultes. Et Claude Guéant ne voulait pas de conseiller chargé des cultes parce qu'il avait un très mauvais souvenir de l'expérience où il était directeur adjoint du cabinet de Charles Pasqua et où il y avait un conseiller au culte qui était extrêmement présent à la personne de André Damien. Et donc, Claude Guéant avait refusé qu'il y ait un conseiller chargé des cultes. Et donc, un peu pour se débarrasser du problème, qu'il considère Claude Guéant comme étant en fait un non-sujet, il dit « Oh, ben, y a pas de conseiller aux cultes, c'est pas la peine. Et puis, de toute façon, les cultes, c'est une liberté publique. Alors, la conseillère liberté publique, elle fera très bien l'affaire. » Et donc, je me suis retrouvée en 48 heures dans le bureau de Nicolas Sarkozy, terrorisée, vous imaginez bien. Et Nicolas Sarkozy me dit « Vous connaissez quelque chose aux musulmans et à l'islam ?» Je lui dis « Non, j'y connais rien. » Il m'a dit « Bah écoutez, c'est pas grave parce que moi non plus. Alors, on va découvrir le sujet ensemble. » Et donc, tout de suite, en réalité, alors que j'étais une petite conseillère qui arrivait de nulle part et qui était très, très apeurée d'être là, en fait, je me suis retrouvée avec un dossier, d'abord dans un tête-à-tête avec le ministre de l'Intérieur, ça c'était un peu inespéré, et puis dans un dossier qui, en fait, s'est avéré un dossier extrêmement politique et absolument passionnant. Voilà, et donc du coup, on a fait plein de choses avec, j'ai fait plein de choses avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ça a été une période très faste, on a fait beaucoup de textes de loi, on a renversé, on a fait évoluer considérablement certaines jurisprudences du Conseil constitutionnel, donc ça a été une période de succès pour lui, de succès pour moi, ensuite je l'ai suivi à Bercy, et donc quand il est devenu président de l'UMP en 2004, assez naturellement, il a souhaité me garder parmi ses collaborateurs, et c'est comme ça que je suis devenue directeur des études de l'UMP.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé concrètement la campagne présidentielle, en fait, comment vous avez organisé tout ça, parce qu'on dit que vous avez dirigé des groupes de travail, donc comment vous avez orchestré en fait cette préparation?
Alors, quand vous arrivez directeur des... D'abord, quand j'ai été nommé directeur des études de l'UMP, c'était pas l'idée de Nicolas Sarkozy. Lui, ce qu'il voulait, c'était que je reste dans son... Il souhaitait évidemment préparer sa campagne présidentielle et il souhaitait que je reste dans son entourage. Et ce qu'il m'a proposé, c'était de devenir directeur des affaires juridiques du département des Hauts-de-Seine. Alors moi, je voulais absolument pas faire ça. C'était quand même la suite de Charles Pasqua. J'avais pas du tout envie d'aller en prison. J'ai refusé ce poste. Et c'est Frédéric Lefebvre, en réalité, qui a eu l'idée de me mettre à la direction des études de l'UMP. Mais quand vous êtes directeur des études du parti de droite, dans lequel le poids quand même de l'ancien parti gaulliste était assez présent, c'est pas les idées, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Donc en fait, c'était un poste qui comptait pas vraiment. Et j'étais un peu là pour qu'on me garde un peu sous cloche dans une perspective où je pourrais se servir ultérieurement. Et personne n'a imaginé que j'allais faire ce que j'ai fait. Alors, Nicolas Sarkozy me dit, au bout de quelques semaines, enfin au bout de quelques jours, la difficulté quand vous êtes président d'un parti politique et que c'est votre famille politique qui est au pouvoir, c'est très difficile de trouver de l'espace politique. Parce que si vous dites des choses qui vont contre ce que fait le gouvernement, vous créez des divisions et c'est très mauvais. Et si vous êtes uniquement à dire des choses qui soutiennent ce que fait le gouvernement, en réalité, vous êtes le déni de lui. Vous comptez pas. Donc Nicolas, c'était une période un peu compliquée pour Nicolas Sarkozy. Et donc il dit comme ça dans une réunion, un peu par hasard, je crois, on va organiser une convention sociale. Alors au bout de quelques jours, je lui dis, mais qu'est-ce que vous entendez par convention sociale, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Et là, il m'envoie un peu bouler en me disant, bon, écoutez, je sais pas, débrouillez-vous, trouvez des idées. De toute façon, on va pas en faire un événement stratosphérique. J'étais très vexée, épouvantablement vexée par cette phrase, mais je me suis débrouillée et on a fait une première convention sociale au bout de deux mois à peu près de notre arrivée à l'UMP, qui a été un véritable triomphe. Alors ça a été un triomphe pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y avait un travail intellectuel extrêmement sérieux, c'est-à-dire que chaque conventionnel entré dans la convention se voyait remettre un livret dans lequel il y avait des chiffres, des analyses, on expliquait où en était la situation de la France par rapport aux grandes questions sociales qui se posaient, la santé publique, le chômage, la situation dans les quartiers, tout ce qui relève de la sphère sociale, avec des graphiques, des éléments de comparaison, de benchmark international. On avait beaucoup travaillé notamment sur la flexisécurité danoise. Ça, c'était le premier élément, le livret. Deuxième raison de ce succès, les gens qui participaient au débat pendant cette convention étaient des gens de très haut niveau. On avait fait venir des experts, on avait fait venir des observateurs étrangers, on avait fait venir des penseurs. Alors les responsables politiques étaient un peu frustrés, et des gens de droite et de gauche. Ça, c'était ça un peu la nouveauté, le caractère inattendu de la chose. Donc les gens étaient, les politiques étaient un peu frustrés. Ils trouvaient qu'on leur faisait pas tout à fait à cette place, mais ça a évidemment considérablement élevé le niveau des échanges et le niveau des débats. Et puis la troisième chose, j'avais préparé un discours programmatique pour Nicolas Sarkozy. On l'avait discuté ensemble, évidemment, mais c'était un discours dans lequel il pouvait avancer des propositions sans prendre trop de risques, parce que on était encore loin de la présidentielle, et donc il pouvait encore tester des idées. Et cet événement a été un très grand succès. Et le lendemain de cet événement, il s'est passé trois choses. La première, c'est que je suis devenue une star à l'UMP. Et ça, j'ai pas tout de suite compris pourquoi. Mais en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'en fait, l'UMP, c'était quand même la réunion de plusieurs courants de la droite. Le courant gaulliste, dans lequel ce qui est important, c'est le chef. Mais aussi des courants centristes, dans lesquels ce qui est important, ce sont les idées. Et moi, j'étais en fait la femme des idées, qui était en même temps une proche collaboratrice du chef. Donc ça m'a donné un rôle en fait très très clé, très très essentiel à l'UMP. La deuxième raison et la principale, c'est que Nicolas Sarkozy a tout de suite compris ce qu'il pouvait faire de ça. Il s'est dit mais c'est très bien ça, parce que le problème que je vais avoir en 2007, et alors le problème c'est renforcé quelques semaines plus tard lorsqu'il est revenu au gouvernement. Le problème que je vais avoir en 2007, c'est que qu'est-ce qui se passe en France depuis une trentaine d'années? C'est que celui qui est, c'est que le leader de l'exécutif, alors le président de la République en période normale, le Premier ministre en période de cohabitation, il n'est jamais élu en fait. Et donc Nicolas Sarkozy a déjà anticipé le fait qu'il aurait des difficultés, ayant été membre de ce gouvernement pendant 4 ans et demi sur tout le quinquennat, le quinquennat de Jacques Chirac, il aurait quand même beaucoup de mal à dire qu'il n'était pas de l'équipe, de l'équipe précédente. Et c'est là qu'il a l'idée de la rupture. Et il se dit, ben, c'est très simple, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer aux Français qu'en fait, moi je suis la rupture, c'est-à-dire que tout ce qui s'est fait avant, aussi bien à gauche qu'à droite, et même à droite, en réalité, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, faire quelque chose de différent. Et donc il se dit, ben, ce qu'elle fait, la petite Emmanuelle, en fait, c'est ce qui va, c'est ce qui va être la preuve scientifique que je suis le candidat de la rupture, parce que j'ai un programme scientifique, entre guillemets, dans lequel j'ai analysé tous les problèmes et j'explique aux Français que je vais tout faire différemment. Ça, ça a été le deuxième changement qui a tout de suite suivi cette première convention. Et à partir de là, il a souhaité qu'on fasse une convention par mois, ce qui a mis un rythme extrêmement dense sur nos épaules, qu'à chaque fois ce soit un événement stratosphérique cette fois. Donc on a énormément travaillé, fait intervenir énormément d'experts, de penseurs, etc. À l'issue de ces 18 conventions qu'on a menées sur une période de 18 mois, ça nous a mené à peu près à l'été 2006, et à l'été 2006, moi, je me suis enfermée pendant toutes les vacances chez moi et j'ai écrit le programme présidentiel à partir de ces différentes briques qu'on avait amassées grâce aux conventions. Chaque convention étant préparée effectivement par des groupes de travail, de hauts fonctionnaires qui travaillaient pour nous aider à identifier les problèmes du pays et les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre. Et puis la troisième chose qui a changé après cette première convention, c'est que ça a été le début de mes ennuis, parce qu'en réalité, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, ben, certains ont compris que j'avais de l'or entre les mains, puisque j'allais avoir quelque chose de très important pour la campagne présidentielle. Donc, ça a créé évidemment des jalousies et des crispations, mais ça, c'est c'est la vie politique.
Et qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience ?
Je ne dirais pas que j'ai appris, je dirais que j'ai vécu. Ça a été une période extrêmement intense. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la qualité de l'expertise et de la recherche française. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'en réalité, on savait tout sur les problèmes du pays. Et on savait tout dans le détail. Il y a des études extrêmement sérieuses dans nos labos de recherche, dans nos universités, sur de tous les problèmes que rencontre notre pays depuis 30 ans. On sait parfaitement quels sont ces problèmes. On sait à peu près comment les résoudre. Et le problème qu'on a, enfin, un des problèmes que j'ai identifiés, c'est une très grande difficulté de communication entre le monde de la recherche académique et le monde politique. Alors, le monde politique a un grand mépris pour le monde de la recherche académique. Donc, il ne s'y intéresse pas, il ne communique pas avec ce monde-là. Et le monde de la recherche académique ne comprend pas les contraintes du politique. Et donc, ce sont vite des gens qui sont intégristes de leurs idées. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout de suite, il y a des choses qu'on ne peut faire que progressivement, il y a des choses qui ne s'inscrivent pas à tel ou tel moment dans un calendrier politique. Et donc, ce sont deux mondes qui ont énormément de difficultés à communiquer. Et j'ai essayé, pendant cette période, et puis un petit peu aussi après à l'Élysée, mais à l'Élysée, c'était beaucoup plus difficile, j'ai essayé pendant cette période de rapprocher ces deux mondes.
Alors ensuite, vous êtes resté 2 ans hein, à l'Élysée.
2 ans et demi, oui.
2 ans et demi, pourquoi avoir quitté votre rôle de conseillère en 2009? Et puis pourquoi revenir ensuite en 2012 dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy?
Le président ne faisait pas le programme de réforme qu'il avait annoncé. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis la première victime du sarkozysme, c'est-à-dire que comme beaucoup de Français, j'y ai cru, j'y ai cru de toutes mes forces. Je réalise aujourd'hui que notre programme était trop ambitieux, c'est-à-dire que quand on le relit avec un peu de distance, bon, la réalité c'est qu'on allait tout changer, tout réformer, tout réussir, c'était évidemment pas crédible. Enfin, j'ai quand même cru à ce programme de réforme. Et ce dont je me suis aperçue tout de suite, en réalité, c'est que Nicolas Sarkozy n'avait pas du tout l'intention de faire ses réformes. Donc la rupture, en fait, c'était une posture. Qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire? Il avait l'intention de faire la loi TEPA. Ça, il tenait beaucoup. Mais la loi TEPA, c'est pas... Alors, la loi TEPA, elle avait l'avantage de...
Est-ce que vous pouvez rappeler...
La loi TEPA, c'est un certain nombre de mesures fiscales qu'on prend immédiatement hein, dans les 2 mois de l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc il y avait la réduction d'impôts lorsqu'on empruntait pour son logement. Il y avait une réduction des droits de succession. Et puis il y avait surtout la mesure phare de la loi TEPA, c'était l'exonération de charges sociales et de fiscalité sur les heures supplémentaires. Et ça, c'était une très bonne idée. Tout le monde était contre dans son entourage, mais c'était une très bonne idée parce que ça concrétisait tout de suite le travailler plus pour gagner plus. Donc ça, c'était une très bonne mesure. Mais la loi TEPA, c'est pas une réforme de l'économie française comme je pensais qu'il fallait en faire une. Ensuite, il voulait faire la réforme des universités, parce qu'en fait, cette réforme était mûre. Tout le monde était d'accord pour la faire, la gauche, la droite, tous les présidents d'université. Et il voulait la faire, mais à condition que ça crée quand même pas trop de problèmes, parce qu'il était terrorisé par l'idée de manifestations étudiantes, etc. Donc en fait, il l'a faite à moitié. Et puis enfin, il voulait faire la réforme des régimes spéciaux de retraite et puis la réforme du service minimum. Mais on sait aujourd'hui qu'en fait, ces réformes, elles ont pas été faites. Et d'ailleurs, on a eu avec le quinquennat de Macron de nouveau des problèmes sur ces sujets, ce qui prouve bien que ces réformes, on a fait un petit morceau, mais on est loin d'avoir fait ces réformes. Donc ça, moi, je l'ai compris tout de suite. Je lui en ai parlé. J'ai compris que on ferait rien de plus en réalité, qu'il n'était pas de question par exemple de toucher à l'éducation nationale, il n'était pas tout question de toucher au marché du travail, de faire la flexisécurité danoise, etc. Et donc ça a été un long parcours, un long chemin de croix, si je puis dire, où j'ai présenté plusieurs fois ma démission. J'ai demandé à ne plus être directrice de cabinet au bout d'un an, mais il a fait pression pour que je reste quand même. Il m'a dit que les choses allaient s'arranger. Et puis, en fait, les choses ne se sont jamais arrangées et j'ai fini par partir à la fin de l'année 2009.
Qu'avez-vous retenu de votre expérience à la présidence et quel serait votre plus grand accomplissement et, à l'inverse, votre plus grande déception ?
Alors la déception, ben, je viens d'en parler, hein, c'est l'écart énorme entre les promesses de campagne et l'ambition réformatrice et puis ce qu'on a fait. Alors il faut dire quand même, pour être tout à fait honnête, qu'évidemment la crise n'a pas aidé, mais je peux témoigner, parce que j'étais là, que en fait c'était le renoncement à faire les réformes était bien antérieur à la crise. Le plus grand accomplissement, c'est la réforme constitutionnelle que j'ai pilotée entièrement. On a fait des bêtises dans cette réforme. Il y a des choses que je regrette. Je pense qu'on est allé trop loin dans les pouvoirs qu'on a donnés au Parlement. On a contribué à dégrader la qualité des normes avec cette histoire où on délibère maintenant en séance sur le texte qui est adopté en commission. Donc, en fait, on n'a plus de trice du débat parlementaire. Je pense aussi qu'on a donné au Parlement des pouvoirs qu'il ne souhaitait pas vraiment, mais bon, là, moi, j'ai beaucoup poussé pour la réforme. Comme je voyais que les autres réformes n'étaient pas très ambitieuses, la réforme dont je m'occupais, je voulais qu'elle le soit. Donc, du coup, j'ai poussé sur des choses qui étaient, en fait, pas nécessaires. Et partage de l'ordre du jour, le pouvoir, le rôle du Parlement dans un certain nombre de nominations, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Et, en fait, le Parlement ne s'en empare pas vraiment. Mais, en revanche, la grande réussite de cette réforme constitutionnelle, et ça, évidemment, c'est mon plus grand succès, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est ce qui permettra à Nicolas Sarkozy de rester dans l'histoire constitutionnelle de la France comme un grand démocrate et comme un grand réformateur. Et cette question prioritaire de constitutionnalité, si je n'avais pas été là, elle aurait pas eu lieu, en fait. Alors, elle aurait peut-être eu lieu plus tard. Mais elle n'aurait pas eu lieu en 2008. Tout le monde était contre, Fillon était contre, Guénot était contre, le Conseil d'État était contre, la Cour de cassation était contre. Le seul soutien que j'avais, c'est pas un soutien nul, évidemment, mais enfin, c'était le soutien du Conseil constitutionnel. Voilà, cette réforme, elle a pu avoir lieu parce que je l'ai portée, parce que je me suis battue pied à pied pour convaincre le président, pour convaincre les parlementaires, ce qui nous a permis de mettre en place cette réforme qui s'est révélée un très grand succès.
Alors maintenant qu'on a parlé de votre temps à la présidence, nous allons nous orienter du côté des idées. Vous l'avez un petit peu sous-entendu, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous êtes de droite et pourquoi ?
Il y a des choses auxquelles je suis attachée. D'abord, je suis attachée à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que je pense que globalement, l'individu est l'auteur de son destin. Alors, je sais qu'il y a des gens qui naissent avec tout.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Peu mon cas, tout ne m'est pas tombé dans le bec. Hein. L'ENA, je l'ai préparé. Auprès de Nicolas Sarkozy, j'ai travaillé, etc. etc. Mais je suis partie dans le rang des privilégiés, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais aussi qu'ils partent avec rien, qu'il y en a qui partent avec rien. Je sais aussi qu'il y a aussi des gens qui partent avec rien. Et je suis convaincue que l'État doit être là pour rétablir de l'égalité des chances. Et pendant la campagne de 2007, un de mes collaborateurs avait eu cette très belle formule que j'adore, qui était revenue dans un discours de Nicolas Sarkozy. L'école est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc il y a vraiment un rôle de l'État pour essayer de faire en sorte que ça ne sera jamais possible intégralement, mais pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait un peu les mêmes chances au départ. Mais je crois quand même que les gens sont auteurs de leur destin et qu'il y a une part à la responsabilité individuelle et que les difficultés, les échecs ne sont pas simplement la faute du collectif. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours étonnée par les réussites. Je pense que c'est plutôt bon signe quand on vieillit, parce qu'il y a des gens qui deviennent plutôt un peu ronchons, un peu qui se ratatinent un peu sur eux-mêmes. Et moi, en fait, plus j'avance, plus je suis admirative de ce que font les gens, de la manière dont ils surmontent des difficultés, dont ils se relèvent d'un échec, dont ils sont partis de manière dans des conditions très très défavorisées, ce qu'ils arrivent à faire. Et il y avait une idée que j'ai beaucoup aimée dans ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il a fait sa campagne en 2017. Quand il est allé dans les quartiers, il a dit « Moi, je veux rendre de la liberté aux gens qui sont dans les quartiers. » Il n'est pas venu dire « je vais apporter de l'État-providence », il n'est pas venu dire « je vais apporter des subventions, je vais apporter de l'argent, je vais... » Il n'a même pas parlé d'égalité, il a dit « moi, je veux rendre de la liberté, vous redonner la possibilité d'être maître de votre destin ». La deuxième chose, je crois dans la liberté. Et je pense que... alors là aussi, c'est un côté, mon côté optimiste. Moi, je crois que les gens, globalement... ils veulent, ils ont suffisamment d'intelligence et suffisamment de sens du collectif et du bien commun pour agir de manière honnête. Je suis, je pense qu'il faut faire confiance à la liberté individuelle, il faut faire confiance aux gens. Et je suis un peu effrayée par tout ce qui est contrôle, état policier. Ça me fait peur. Je pense qu'il faut vraiment parier sur l'intelligence et faire confiance aux individus. Je crois dans la main invisible du marché. Je crois que il faut un État régulateur, il faut un État qui encadre les excès. Mais je crois quand même qu'on n'a rien inventé de mieux que la concurrence et la libre concurrence pour répartir, grâce au prix ou grâce à la qualité de l'offre, pour arriver à créer des richesses et faire en sorte que ce soit les meilleurs qui gagnent. Et alors là où ça m'a d'ailleurs valu pas mal de critiques, là où je crois vraiment dans la main invisible du marché, c'est que non seulement je crois dans la main invisible du marché en économie, bien sûr, mais je crois aussi dans la main invisible du marché sur certains secteurs qu'on ne laisse pas très volontiers au marché. Par exemple, l'école. Moi, je pense que à la fois l'école est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc il faut que les plus un enfant est défavorisé, plus il faut que l'école soit présente. Mais je pense que pour avoir des écoles qualitatives, je pense qu'on devrait essayer de les mettre en concurrence, c'est-à-dire en fait permettre aux parents d'inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix, donc en clair supprimer la carte scolaire. Et à partir de ça, alors c'est peut-être très utopiste, hein, mais au moins essayons, puisqu'on n'arrive pas trop à réformer l'école si depuis maintenant de très nombreuses années. À partir de ce libre choix de l'école par les parents, faire en sorte que les écoles qui sont très très bonnes, et ça peut être les écoles de quartier, ça peut être les écoles de banlieue, à partir de projets éducatifs qu'elles décideront par elles-mêmes, on aura des écoles très bonnes qui se développeront, et puis les écoles qui sont très mauvaises, qui mourront de leur belle mort. C'est ce qu'a fait Tony Blair, même si sans doute je caricature, et sans doute c'est plus complexe que ça, mais c'est quelque chose qu'on avait beaucoup étudié quand on a préparé le programme présidentiel pour 2007. Mais je crois beaucoup à la main invisible du marché. Alors, est-ce qu'à partir de là, je suis de droite? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire, mais je crois que oui quand même.
En tout cas, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question.
Pourquoi?
Non, parce que tout ce qui est politique dans ce sens-là, ça fait partie de mes grands sujets d'étonnement et de questionnement même. Donc justement, on vient de parler de l'Angleterre, vous avez dit par le passé être conservatrice au sens britannique. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi cette droite particulière n'existe pas en France selon vous ?
J'ai voulu me rattacher à une tradition britannique qui est à peu près qui sait à peu près ce en quoi elle croit, qui sait à peu près ce en quoi elle ne croit pas, et qui se pose pas des questions matin, midi et soir sur ses convictions en réalité. Alors ce que je veux dire par là, c'est que la droite conservatrice britannique, elle croit dans l'économie de marché, dans la nécessité de créer des richesses avant de les répartir, dans le travail, dans l'effort, dans l'État qui doit rester à sa place, réduire la place de l'État dans l'économie, dans pas trop de pression fiscale, pas trop de dépenses publiques, etc. Alors, je sais très bien que au sein du Parti conservateur britannique, il y a évidemment des courants, c'est aussi des idées qui évoluent, comme la droite de gouvernement en français, mais je trouve qu'on a quand même une permanence des convictions qui est quand même plus forte que la droite française où quand même on est passé de l'appel de Cochin en 1976 à l'ultralibéralisme de 1986 et puis la fracture sociale de 1995 et enfin Nicolas Sarkozy, réformateur libéral en 2007, identitaire conservateur, enfin identitaire et populiste, avec toutes les nuances de ce mot, en 2012. Voilà. Alors, voilà, j'ai le sentiment que la droite britannique, elle est plus, elle se pose moins de questions sur tout ça. Elle sait à peu près où elle est, voilà, et elle ajuste évidemment en fonction des nouveaux enjeux hein, qui se posent à elle. Elle ajuste son action, mais elle connaît ses convictions. Elle sait ce qu'elle est. Elle sait ce qu'elle n'est pas.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes né en 1968. Alors, je me suis demandé, en voyant cette date de naissance, qu'est-ce qu'évoque 68 pour vous ?
Alors, je vais être honnête avec vous, ça évoque pas grand-chose. J'attends le grand livre sur 68 qui m'expliquera exactement ce qui s'est passé. Voilà. Et alors, du coup, pour moi, c'est ce que je retiens de 68, en réalité, c'est... C'est l'abnégation admirable de Georges Pompidou, la manière dont il a permis au général de Gaulle de sortir de cette crise, alors avec, là aussi, du respect, de la confiance, aussi des malentendus. Hein. Et c'est peut-être le seul événement de la Ve République qui me fait adhérer à la dualité de l'exécutif. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, en 68, heureusement qu'ils étaient deux à tenir le guidon, parce que s'il n'y avait pas eu Georges Pompidou, je ne sais pas trop comment on s'en serait sorti.
Et vous n'avez jamais eu envie de vous lancer en politique en bonne et due forme ?
Alors, j'ai eu plusieurs fois l'occasion. Jacques Chirac, d'abord, était venu me chercher en 2002 parce qu'on cherchait des femmes pour les législatives. En 2007, si j'avais voulu une circonscription, j'avais d'autres chats à fouetter, évidemment, mais si j'avais voulu une circonscription, je l'aurais eu. Et en 2012, il y avait une circonscription dont Édouard Balladur m'avait dit qu'elle était dessinée pour moi. C'était pas, elle n'avait pas été dessinée pour moi, mais c'est vrai qu'elle m'aurait très bien correspondu, puisque c'était une nouvelle circonscription en Haute-Savoie qui réunissait Megève, Chamonix et Saint-Gervais. Et comme je suis passionnée d'alpinisme, c'est vrai que c'était pour moi, ça aurait été pour moi une très belle circonscription. Et là aussi, si je l'avais demandé, je l'aurais eu. Et j'aurais gagné haut la main, puisque la candidate de droite a fait 64%. Je pense que c'est la circonscription la plus à droite de France, droite au sens où moi je me reconnais, voilà, c'est-à-dire une droite libérale, ouverte, réformatrice. Bon. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait ? Y a un manque de courage. Ça, c'est sûr. C'est très exigeant. J'ai eu peur de perdre. C'est assez bête à dire, hein, mais je crois qu'il y a ça. Et puis, je pense qu'aussi, il y a une part de lucidité sur moi-même. Voilà, moi, je n'aime pas mentir. Je ne sais pas mentir. Et donc, j'aurais été incapable d'être dans ce jeu de rôle et dans ce... j'admire ceux qui savent le faire, moi je ne sais pas.
Alors que pensez-vous de l'état de la droite aujourd'hui ? Je pense plutôt à la droite de gouvernement, ou plutôt ex-de gouvernement. Comment expliquez-vous son déclin politique alors que la société française est supposée se droitiser ?
Ben, je crois que, en fait, c'est quand même assez simple. C'est tellement simple qu'en réalité, chacun cherche à élaborer des grandes théories, en réalité, pour dire des choses très simples. La vie politique, il faut quand même la regarder sur le long terme. Donc la droite, elle est dans un état extrêmement délicat. La droite de gouvernement, elle est dans un état extrêmement délicat aujourd'hui. Mais il faut se souvenir quand même de ce qui vient lui arriver au cours des 4 dernières années. Un échec dans une présidentielle qui lui est... Un accident dans une présidentielle qui lui était acquise, en réalité. Et puis un accident qui on l'a pas beaucoup dit, mais en fait, quand même, qui a mis beaucoup de gens mal à l'aise. C'est pas très glorieux, quand même. Je crois que la droite espérait quand même être débarrassée de ces histoires de mélange entre l'enrichissement personnel et la vie politique. Donc je pense que ça a sapé peut-être des fondements assez profonds. Ensuite, des trahisons absolument monumentales, avec quand même des poids lourds de l'UMP qui sont partis rejoindre Emmanuel Macron. Un ancien président de la République qui devrait être le sage de sa famille politique et qui en réalité joue un jeu très ambigu avec Emmanuel Macron. Et un jeune président de la République auquel on peut faire beaucoup de reproches, mais qui, somme toute, qui fait quand même globalement plutôt une politique de droite et qui pourrait... on nous dirait qu'Emmanuel Macron est un ancien de l'UMP, tout le monde serait d'accord. Il incarne parfaitement la fonction présidentielle et il fait des réformes que Nicolas Sarkozy n'a pas osé faire. Du coup, la droite et cette France droitisée, et ça je crois que c'est difficile de le contester, en réalité elle est divisée entre Marine Le Pen qui répond à la demande d'une droite régalienne, exigeante sur les questions d'immigration, de sécurité, et puis sur les problèmes qui sont liés à l'Union européenne. L'Union européenne est-elle la porte ouverte de la mondialisation ou au contraire ce qui va nous protéger de la mondialisation? Donc ça, Marine Le Pen, elle couvre ce champ-là. Et Emmanuel Macron couvre la droite libérale, attachée à l'économie de marché, qui veut des réformes, mais en même temps que ça se passe dans la nuance, de manière raisonnable, etc. Donc il n'y a aujourd'hui absolument aucun espace pour la droite dite de gouvernement, c'est-à-dire pour les Républicains, tout simplement.
Et on entend même que la droite aurait cessé de travailler après les élections de 2007, en fait, quand Patrick Buisson a influencé le virage sarkozien des questions économiques vers les questions identitaires. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis ?
Elle a arrêté de travailler en 2007 parce qu'elle avait été élue. Le parti politique qui est au pouvoir, en réalité, il n'a aucune existence possible. Parce que si il ne peut rien faire d'autre que d'être le béni oui-oui de ce que fait le gouvernement et de ce que fait le président de la République. Et je dirais encore plus si le président de la République s'appelle Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire quand même quelqu'un d'autoritaire et qui n'aurait évidemment jamais accepté la contestation ou ne serait-ce que l'expression de nuances au sein de sa famille politique. L'ascendant de Patrick Buisson, il arrive un peu plus tard. Il arrive en 2010. Alors là, les choses sont là aussi assez simples. Buisson, il est déjà présent dans la campagne de 2007. Alors c'est une présence physique extrêmement discrète. En fait, on ne le voit jamais. Il ne participe à aucune réunion. Il est uniquement dans un tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy. Philippe Ridet, qui est donc journaliste au Monde et qui suivait l'UMP et le candidat Sarkozy pendant la campagne de 2007, m'a confié récemment avoir relu tous ses articles au cours de la campagne de 2007. Il n'a jamais cité le nom de Patrick Buisson. Donc c'est quelqu'un qui est totalement occulte aux yeux des observateurs et même aux yeux de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Moi, je voyais bien qu'il y avait quelqu'un qui parlait à l'oreille du candidat, si je puis dire, dans un cadre où moi, je n'étais pas et où le reste de l'équipe n'était pas. Et tout le monde sait que c'est lui qui a inspiré notamment l'idée du ministère de l'Identité nationale. Donc, il est très présent idéologiquement, mais il n'est pas du tout présent physiquement, on ne le voit jamais. Mais la grande, ce qui s'est passé en 2007, c'est qu'en réalité, son influence est contrebalancée par la présence d'autres personnalités autour de Nicolas Sarkozy, et pardon de le dire, en fait, par deux personnes, Henri Guénot et moi-même. Qui avons chacun nos... Moi, j'ai des points communs avec Henri Guénot, et puis j'ai des choses abyssales qui me séparent de lui. J'ai des points communs avec Patrick Buisson, et j'ai des choses abyssales qui me séparent de lui. Et tout ça fait un équilibre, en réalité. Et Nicolas Sarkozy, il va faire son l'équilibre de sa campagne, en fait, dans l'équilibre de ses influences. En 2010, il n'y a plus cet équilibre-là, parce que moi, je suis partie. Des gens qui étaient un peu comme moi, c'est-à-dire réformateurs, libéraux, droite ouverte, sont partis également. Patrick Huard est parti, François Perrol est parti, Raymond Soubi va partir à la fin de l'année 2010. Quant à Henri Guénot, il est toujours là, mais ce que j'ai compris, même si j'étais plus à l'Élysée, ce que j'ai compris, et puis j'ai pu le constater quand je suis revenue en 2012, c'est que, en fait, sans doute par lassitude, par découragement, en fait, il est plus présent dans les décisions du président de la République, c'est-à-dire qu'il mène sa vie avec l'Union pour la Méditerranée, il prépare sa campagne législative, donc de temps en temps il est là, de temps en temps il n'est pas là, mais il est quand même beaucoup moins présent qu'il ne l'a été pendant la campagne de 2007 et pendant les premières années du quinquennat. Et donc Patrick Buisson en fait se retrouve tout seul, et donc là évidemment il a une autoroute pour décliner ses idées identitaires et effectivement abandonner la dimension économique et réformatrice du programme de 2007. Pourquoi j'y vais en 2012? Bah écoutez, parce que si j'étais un animal, je serais un chien. Voilà, un chien un peu con sans doute, mais fidèle, c'est la première qualité du chien. Donc voilà, j'avais participé à l'aventure de 2007, j'avais été déçue, mais il se trouve que ça a coïncidé à un moment où j'avais un peu de disponibilité, j'avais été obligée de démissionner d'EuropaCorp à mon corps défendant. Je savais que c'était une très mauvaise période parce que j'étais sûre que Nicolas Sarkozy, voyant que j'avais démissionné d'EuropaCorp, allait me rappeler. Évidemment, ça n'a pas manqué. Et là, ça aurait été un reniement de moi-même que de pas y aller, même si je savais très bien, un, qu'on n'avait aucune chance, et deux, que ce serait une campagne très difficile parce que il n'y avait rien, voilà, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de programme, il n'y avait rien. Il y avait un QG de campagne assez minable qui avait été loué par les équipes de Sarkozy sans même lui dire, parce que lui avait dit « vous ne vous occupez de rien, vous ne vous occupez de rien, vous ne vous occupez de rien ». Donc on est entré dans cette campagne exactement dans l'état inverse à celui de 2007, c'est-à-dire absolument non préparé. Et j'ai passé la campagne à être dans la soute, à essayer d'écoper un bateau qui prenait l'hôte partout, à répondre à tous les courriers qu'on recevait, tous les interviews qu'on recevait, essayer d'élaborer des éléments de langage, des discours qu'on préparait du jour au lendemain. C'était une campagne très sympathique humainement, mais un véritable cauchemar intellectuel.
Qu'avez-vous pensé de la Manif pour tous et de l'influence qu'elle a eue sur François Fillon, puis du choix de François-Xavier Bellamy pour conduire les Républicains lors des élections européennes en 2019?
Je pense que c'est un resserrement sur une petite frange de l'électorat de droite qui a le droit d'exister et a le droit d'avoir ses idées, mais c'est quand même un resserrement. Et puis je pense que c'est pas un électorat très stable en réalité. Donc moi je pense que ce que je vous dis n'est pas étayé de chiffres, d'études, mais donc peut-être je serai contredite, mais j'ai pas eu l'impression que la droite catholique votait en masse pour Nicolas Sarkozy en 2012, malgré tous nos efforts pour bien faire savoir qu'on était contre le mariage pour tous, contre l'euthanasie et contre le vote des étrangers. Voilà, donc en fait c'est un électorat qui a des idées arrêtées, qui tient à la conservation de voilà, d'un certain nombre de fondamentaux moraux qu'elle considère comme très importants, voilà, mais qui est très, 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 très loin de représenter ce qu'est l'électorat de droite. Donc je pense que c'est un resserrement, et un resserrement pas très fiable, en fait, parce que cet électorat-là, il va là où on lui garantit le respect des fondamentaux auxquels il est attaché.
Et justement, est-ce que vous pensez que, dans ce contexte, la droite a une chance aux prochaines présidentielles ?
Oui, parce que le candidat de droite, c'est Macron. Voilà, donc c'est très. Enfin voilà, on est dans des. Je crois que ces chances sont limitées. Le candidat de droite, c'est Emmanuel Macron. Il fait tout à fait l'affaire pour l'électorat de droite. Alors la droite de gouvernement va vous dire oui, mais bon, sur les finances publiques, il n'est pas bon. Bah, nous, on a été très mauvais aussi. Sur l'immigration, il n'est pas bon. Bah, nous, on n'a pas été très bon non plus. Voilà, moi je pense que l'électorat de droite se reconnaît dans Emmanuel Macron. Les électeurs du Rassemblement national, alors ça c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que j'ai été critique sur Nicolas Sarkozy, mais il faut quand même dire que chaque fois que Nicolas Sarkozy a été candidat en 2007 et en 2012, il a eu en face de lui un candidat de gauche, hein, gauche de gouvernement. Et ça c'est à mettre à son crédit, parce que je pense que c'est dangereux, délétère, dramatique d'être dans un duel candidat de gouvernement et candidat du Rassemblement national et autrefois du Front national, parce que ça met en dehors du débat démocratique quand même des pans très importants de la population, et une société ne peut pas progresser, se construire, vivre ensemble s'il y a autant de gens qui ne se sentent pas représentés, qui ne se sentent pas reconnus. Et donc ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire ce grand rassemblement de toute la droite, avec à la fois raisonnable dans la réforme et en même temps répondant aux préoccupations des électeurs du Front National, ce qui a permis à l'électorat du Front National de se mettre sur la candidature de Nicolas Sarkozy dès le premier tour. Ça aujourd'hui c'est impossible, parce que comme on a promis mais on n'a pas fait, et donc on n'a pas délivré aux électeurs du Rassemblement National ce qu'ils attendaient, malgré nos promesses, eux sont repartis au Rassemblement National et ils vont, à mon avis, y rester assez durablement et vraisemblablement jusqu'à ce qu'on essaye le Rassemblement national. Parce que finalement, quand on aura fini avec Macron, qu'est-ce qui restera, la dernière chose qu'on n'aura pas essayé, en fait, c'est le Rassemblement national. Donc, à partir de là, est-ce que ce serait... dire que la droite a une chance en 2022, à moins qu'il y ait un accident et un alignement de planètes comme il y en a eu un en 2017 pour Emmanuel Macron, je ne vois pas très bien comment la droite peut faire un miracle en 2022. L'électorat va se partager entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Et pour finir, et en revenir à vous, est-ce que vous aideriez à nouveau un candidat à la présidentielle si l'occasion se présentait ?
Eh bien, sûrement. Moi, je suis... j'ai grandi, j'ai mûri. Je ferai différemment. Je pense qu'il faut être plus modeste. Je pense qu'on peut avoir une priorité ou deux priorités par quinquennat. Il faut arrêter de faire des grands programmes où on va tout faire et tout raser gratis. Ça ne marche pas. Je crois aussi qu'il faut... Ça fait pas du tout, c'est pas très vendeur pour un candidat, mais Jospin l'a payé cher quand il a dit l'État ne peut pas tout. Il faut expliquer aux Français qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent à l'échelle de l'Union européenne, qu'à l'échelle de l'Union européenne on n'est pas tout seul, il faut convaincre nos partenaires, que arriver avec une ou deux priorités, mais être en capacité de les mettre en œuvre, faire comprendre aux Français que ça se joue, beaucoup de choses se jouent à l'échelle de l'Union européenne et que donc il y a toute une partie de l'action du gouvernement qui en fait va être une action d'influence et d'ascendant et de négociation qu'on doit avoir avec nos partenaires européens. Voilà, je suis une aventurière. Les campagnes électorales, ça reste des aventures absolument incroyables. On s'y fait beaucoup d'ennemis, mais on s'y fait beaucoup d'amis. C'est des moments très denses. Et donc, oui, si l'occasion se présentait, bien sûr, je pourrais de nouveau aider un candidat aux élections présidentielles.
Eh bien, c'est sur ces mots pleins d'espoir que nous concluons cette émission qui était vraiment passionnante. Merci beaucoup, Emmanuelle Mignon, d'avoir rejoint les Contrariantes. Et nous clôturons avec vous cette saison qui, je l'espère, a plu à nos auditeurs, auxquels nous donnons rendez-vous en septembre.
Eh bien, merci beaucoup.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts.